Bien. Nous poursuivons ce matin notre série commencée depuis 2 mois sur le sermon sur la montagne. Ce premier discours parmi les 5 que Jésus prononce dans l'évangile de Matthieu qui concerne les exigences, le projet de vie de disciples de la part de Jésus. Et dans cette série, on a déjà vu les béatitudes. David a commencé il y a 15 jours un passage qui se réfère à la loi et en particulier à la justice supérieure que Christ propose. Et voilà ce que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, poursuivre dans ce contexte-là. Alors, vous avez entendu hier que l'équipe de France de rugby a remporté son dernier match du tournoi des Six Nations face au Pays de Galles. Sauf que il se passait quelque chose d'assez incroyable, c'est que la dernière minute du match, a duré 20 minutes. Alors, c'est le rugby, il y a des règles parfois un petit peu compliquées et je n'ai pas tout compris, mais il se trouve que, en fait, les Français étaient à 5 mètres de la ligne pour transformer un essai et ils ont été face à un mur gallois qui était impossible à franchir. Ça a été terrible et il a fallu 20 minutes de bataille pour pouvoir réussir à marquer un essai. Eh bien, c'est un peu ma situation quand j'ai préparé ce message et quand j'ai lu ce texte. Je lisais ce passage et plus je le lisais et plus j'avais l'impression d'être face à un mur, face à plein de questions compliquées et difficiles à comprendre. Donc au final, j'ai quand même transformé l'essai. Enfin, du moins, vous me direz ça à la fin. Mais voilà, ce n'était pas évident. Alors, pour bien comprendre le contexte, il faut se référer à ce verset qui sert un peu de titre à ce passage, où Jésus dit « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » D'où cette idée d'une justice supérieure. Jésus se sert de la loi. C'est un moyen très efficace, puisque c'est la culture de ses auditeurs. Ce sont des Juifs qui sont très attachés à la loi. Et à partir de là, eh bien, il propose un discours qui lance des défis. Notamment, eh bien, il a commencé par expliquer que, en se basant sur ce texte de la loi qui dit « tu ne tueras pas », eh bien, il dit « sauf que il faut aller plus loin que ça, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement ». Jésus insiste sur le fait que la colère est un serial killer, parce qu'elle provoque toujours 2 morts. Celui qui subit la colère et puis celui qui se met en colère, puisque c'est une émotion tellement forte qu'elle est extrêmement nocive pour aussi celui qui se met en colère. Et puis, la deuxième chose, c'est que, à comprendre dans ce contexte, c'est que Jésus s'appuie sur la loi qui est chère aux Juifs, mais il s'appuie dessus d'une manière qui va déranger. Parce que, à 6 reprises, il va expliquer, il va dire, il a été dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Donc il s'appuie sur un texte de la loi, et puis il rajoute, mais moi, je vous dis. Pourquoi ça dérange? Parce que, déjà, Jésus, il place sa parole au même niveau que la loi, telle qu'elle a été proposée à l'Ancien Testament. Donc il se place à un niveau d'autorité qui peut déranger les chefs religieux de l'époque. Et puis deuxièmement, pourquoi est-ce que ça dérange? Eh bien parce que Jésus explique, notamment aux chefs religieux, c'est très bien, vous respectez la loi. Vous êtes à fond pour faire ce qui est bien et vous comporter correctement. Mais Jésus explique que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller vers une justice supérieure. Jésus, ainsi, ne contredit pas la loi, mais il vient pour abolir la loi. Et là, j'ai fait une grosse erreur. Justement, Jésus ne vient pas pour contredire la loi, ni pour l'abolir, mais il vient pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'il veut faire comprendre ce que c'est que de mettre en pratique la loi. Dans un film de 2012 qui s'appelle Men in Black 3, qui est un film de haut niveau intellectuel, je vous recommande, si possible, après une journée de travail, vous êtes un peu fatigué, c'est mieux. C'est une histoire d'agents spéciaux qui sont des policiers qui luttent contre une invasion d'extraterrestres. Et puis, tous les agents s'appellent K, J, enfin des lettres de l'alphabet. L'agent K dit à l'agent J, est-ce que tu sais ce qui est la force de l'univers la plus destructrice? Et l'agent J répond, bah, le sucre. Et l'agent K dit plus sérieusement, non, le regret. Et le regret, en effet, de ne pas avoir fait ce qui était nécessaire pour maintenir une bonne relation avec une personne, le regret d'avoir laissé la colère nous submerger, mais ce sont des choses qui, en effet, sont destructrices. Et ici, dans ce passage que nous allons lire, Jésus va nous montrer plusieurs éléments qui peuvent être destructeurs dans une relation et qui peuvent provoquer des regrets. Premier passage. Premier passage, versets 27 à 30 de Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps tout entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors, l'adultère ici, c'est toute relation hors mariage. Et quand on creuse un petit peu, on voit que ce n'est pas seulement pendant le mariage, ça peut être aussi avant. Bref, toute relation sexuelle avec une femme qui n'est pas celle que l'on a épousée. Et de manière plus générale, qu'est-ce qu'un adultère? C'est vouloir, pour un homme, c'est vouloir la femme qu'il n'a pas, vouloir la femme qui n'est pas la sienne. Et l'adultère, c'est aussi un synonyme de la convoitise. Et on comprend bien que construire une relation avec quelqu'un sur la base de la convoitise, c'est comme construire sa maison sur les pentes d'un volcan qui est en éruption. C'est un peu dangereux. La convoitise peut détruire une relation, de la même manière que la colère. La convoitise a pour objectif de prendre, à l'inverse de l'amour, qui a objectif de donner. La convoitise, ça peut être le moyen dont l'ennemi va se servir pour déformer le désir de Dieu que nous nous aimions les uns les autres. Et ce qui est terrible, c'est que comme la colère, la convoitise peut être un désir qui consume de l'intérieur et qui nourrit la frustration. Alors, petite précision, on se met d'accord, la convoitise n'est pas la tentation. Jacques explique bien cela. On peut être tenté à convoiter, mais sans pour autant choisir de passer à l'acte et de prendre ce que l'on convoite. La convoitise vient de la réponse à l'appel de la tentation. Pour donner un exemple, c'est pas le sur la porte qui pose problème, c'est le fait d'ouvrir la porte à la tentation qui pose problème. C'est le fait d'accepter une manière de penser, d'accepter de raisonner d'une manière qui n'est pas normale. Deux remarques sur les exigences de Jésus dans ce passage. Déjà, Jésus place la barre très haut. Il explique que le problème, c'est pas juste l'adultère, c'est pas commettre l'adultère, c'est pas l'acte physique. Le problème, c'est avant ce qui se passe déjà dans ta tête. Autrement dit, C'est à l'intérieur du cœur que commence le problème. Deuxième remarque, c'est que Jésus propose une solution pour éviter l'adultère et pour éviter ce qui se passe dans la tête, qui est plutôt choquante. Arrache ton œil, coupe ta main. On est d'accord que c'est bien sûr des images que Jésus emploie, mais ce que Jésus veut dire, c'est qu'il faut prendre au sérieux ce qu'il se passe dans mon cœur. Il y a une citation que j'aime bien d'un auteur début du XXe siècle. Tu n'es pas ce que tu penses être, mais ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et puis, ça rejoint cette phrase de Jésus qui dit, dans Matthieu 15, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. » En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bref, la convoitise trouve ses racines dans mon cœur. La convoitise va susciter des émotions tellement puissantes qu'elles peuvent m'emprisonner, qu'elles peuvent me rendre captif. Et la question, bien sûr, c'est comment inverser la tendance, comment retrouver la liberté. Alors, je suis tombé sur une phrase d'un auteur inconnu qui dit « Nous sommes responsables de nos pensées car nous en avons la maîtrise. » Et d'expérience, je peux vous dire que ce n'est pas si simple. Si quelqu'un peut m'attester qu'il arrive à maîtriser totalement ses pensées, qu'il n'a pas des moments où ça part en live, eh ben, bravo. Mais pour moi, ce n'est pas si simple. Et je crois qu'on peut trouver dans la parole cette clé pour maintenir notre cœur en bonne santé, pour maintenir nos pensées en bonne santé, et pour être victorieux dans nos pensées. Alors, c'est cette clé, je les survole. La première, c'est tout simplement dire à Dieu que nous avons le désir d'avoir des pensées saines. C'est la base. Dans les psaumes, on tombe sur plein de versets qui vont dans ce sens-là. Psaume 51, verset 10. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. » Psaume 139, dernier verset. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Demandez à Dieu qu'il nous donne un désir d'avoir des pensées saines. Deuxième conseil. Dire à Dieu tout ce qui se passe dans notre tête. On n'est pas obligé de tout se dire entre nous. Et heureusement, il vaut mieux pas. Mais à Dieu, ne rien cacher, c'est une bonne stratégie. Et si possible, rapidement. Lui dire tout ce qui se passe par notre tête, même les choses terribles, que ce soit nos émotions de colère, que ce soit nos envies d'adultère ou tout simplement les insultes qu'on a envie d'envoyer à quelqu'un, etc. Eh bien, en parler à Dieu, ça fait du bien. Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. » Troisième conseil, prendre des décisions radicales. L'idée d'arracher un œil, de couper une main, c'est littéralement se débarrasser de ce qui devient un piège pour soi-même, comme un obstacle sur le chemin. Dans le contexte, eh bien, c'est tout ce qui, dans les relations que j'ai avec l'autre, va avoir des effets dévastateurs sur cette relation. Alors, bien sûr, vous pensez pour ceux qui suivaient en ce moment la série d'études le jeudi soir sur la vie de Joseph, vous pensez à l'attitude de Joseph lorsqu'il est coincé avec la femme de son maître et qu'elle lui propose de commettre un adultère. Que fait Joseph ? Il fuit, il prend ses jambes à son cou et il s'enfuit. Voilà le genre de décision radicale. Et on a plusieurs exemples comme ça. J'ai entendu parler d'un... Je remets le diaporama. Voilà. J'ai entendu parler comme cela d'un pasteur qui, entre son domicile et son bureau, avait un chemin le plus court, mais tous les jours, il passait devant des vitrines de magasin, de sex shop. Et en fait, il réalisait que ça lui posait un problème parce que ça engendrait chez lui des pensées compliquées. Et du coup, il a décidé de faire un détour, de mettre plus de temps pour aller à son travail, mais de passer par un chemin plus neutre. Ça peut être des choses donc très simples, de couper un œil, ou bien de couper une main, ou bien d'arracher un œil. Dans Actes 19, verset 19, on voit que des personnes qui viennent de se convertir et qui avaient l'habitude de pratiquer de la magie font quelque chose qui est extrêmement coûteux à l'époque. Ils prennent leurs livres de magie et ils vont les brûler. Alors, dit comme ça, pour nous aujourd'hui, ça n'a aucune importance. Hein, un livre, un de perdu, 10 de retrouvé. À l'époque, les livres étaient écrits à la main, recopiés à la main. Une personne qui avait un livre, c'était une personne riche et c'était un trésor. C'était donc un choix radical. Alors, éviter les situations ambiguës, c'est tout simplement se poser la question, qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce qui rentre dans mon cœur et qui peut laisser des traces dans mon cœur? Évidemment, il y a aussi possibilité de faire des excès. L'excès total, ben, c'est de se dire que je vais pas sortir de chez moi parce que il y a un loup qui va me manger et ça va salir mes pensées. L'exemple le plus évident, c'est bien sûr la vie des moines qui se retirent dans un monastère, qui font parfois même jusqu'à vœu de silence, dans un désir sincère et dans un bon désir souvent, mais avec cette idée qu'ils ne vont plus être confrontés à ce problème de la tentation, de la convoitise, de la colère, etc., et de trouver une paix intérieure. Mais là encore, ce n'est pas une solution. Et bien souvent, les témoignages montrent que ces combats continuent, même lorsqu'on s'isole. Prendre des décisions radicales. Exemple suivant, c'est celui aussi de meubler son esprit de pensées positives. Philippiens 4, verset 8, qui est un de mes versets préférés dans les Écritures. Philippiens 4, verset 8, dit... Enfin, je vous le projette, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et de ce qui est digne de louange. Si l'on prend ce verset simplement comme cela, hors du contexte, c'est un principe de pensée positive. C'est un principe que l'on peut trouver aussi en dehors de la Bible. Qu'est-ce qui fait que ce verset devient applicable pour notre vie? Si Paul le dit, c'est que c'est applicable. Et qu'est-ce qui peut faire que ce verset soit applicable pour notre vie? Eh bien, c'est le fait que Jésus-Christ a, lui, remporté la victoire sur l'ennemi pour que ce ne soit pas l'ennemi qui ait le pouvoir d'influencer nos pensées, mais que ce soit Christ qui ait le pouvoir d'influencer mes pensées. Qu'est-ce que je fais quand mes pensées ne sont pas positives ou quand mes pensées sont envahies par l'idée de convoitise, la colère, etc. J'en parle à Dieu et je prends position en me rappelant que je suis sauvé par Christ et que c'est lui qui a le pouvoir sur ma vie et que ce n'est pas l'ennemi. Et je prends position et je lui demande que mes pensées soient justes, honorables, etc. Et que ces mauvaises pensées que je peux avoir n'ont rien à faire dans ma tête et je m'en débarrasse. Aspect suivant. Cinquième conseil, ne pas combattre tout seul. Dans certains cas, il est nécessaire de partager son fardeau, ses problèmes, ses émotions avec un ou une amie avec qui tu peux prier, avec qui tu peux combattre face à ce que tu vis. Sixième conseil, ne jamais présumer de ses forces. Si même un des plus grands hommes de Dieu que l'on trouve dans la Bible, David, un grand roi qui a remporté plein de batailles, qui a écrit des psaumes merveilleux, si même David a commis un adultère en volant la femme d'un autre et en se débarrassant ensuite de ce mari gênant, eh bien, qui suis-je pour me dire que je n'aurai pas de problème, ou qu'une fois que j'ai réglé mes problèmes, c'est fini, je suis tranquille pour la suite. Toujours rester sur ses gardes. Dans Matthieu, un peu plus loin, on trouve ce passage qui dit, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, car la chair est faible. » Il faut toujours rester sur ses gardes. D'ailleurs, vous savez, en juillet 1940, le général de Gaulle commence à organiser la résistance face à l'invasion allemande en France. Il est à Londres et il fait placarder sur les murs de Londres des affiches avec ce texte qui dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Nous, c'est l'inverse. C'est l'idée que chaque bataille gagnée ne doit pas nous faire oublier que la guerre continue et qu'il faut rester sur ses gardes. D'ailleurs, il y a un verset en rapport avec ça que j'aime bien, c'est celui d'un Pierre 5,8 qui dit « Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Et j'ai trouvé cette petite anecdote intéressante, c'est dans la pensée du jour, ce top chrétien, Elisabeth Dugas, qui dit que pour elle, un lion qui rôde autour d'elle, c'est pas vraiment parlant, parce qu'elle en croise pas tous les jours, mais elle explique que par contre, elle a des chats, et que ces chats, souvent, traînent dans ses pattes, et manquent de la faire trébucher, de la faire tomber. Et en fait, elle dit que voilà, c'est un bon exemple, parfois, du harcèlement que l'adversaire peut avoir sur nos pensées, sur notre vie, pour tenter de nous agacer, de nous décourager, de nous déstabiliser, de nous faire chuter. Alors, elle propose la question suivante, comment faire pour éviter d'être embêté par ces chats? Eh bien, c'est bien sûr garder un œil en permanence sur le chat, mais en fait, elle dit non, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est plutôt de garder un œil, non pas sur le problème, mais sur la solution. La bonne attitude face au lion rugissant, c'est pas de garder un œil sur ce lion, mais c'est de garder un œil sur celui qui a vaincu le lion. Et d'ailleurs, regardez ce que Jésus nous dit dans Matthieu 28. Le contraste est assez saisissant. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même quand tu as des problèmes par rapport à tes pensées, à tes émotions, etc., Jésus est là, à côté de toi, et il peut te protéger. Dernier conseil, c'est bien sûr celui de l'action. L'action, soyez actifs pour le Seigneur. Le passage qui relate la chute de David, qui commet un adultère, montre qu'une des raisons de la chute de David, c'est qu'en fait, son armée est sur le front en train de mener une guerre, et lui, n'y est pas. Il est resté au chaud, chez lui, il est en vacances en fait. En fait, au lieu de partir à la guerre comme le passé, David a décidé, pour une raison qu'on ne sait pas, de rester à Jérusalem. Et c'est souvent quand on met son esprit en mode neutre que des idées impures commencent à s'infiltrer et que ça peut partir mal. Pour le dire autrement, ce serait formidable si simplement je pouvais lire un manuel de survie et ensuite aller dans la jungle et en me disant « Super, vous pouvez me laisser, retourne dans 3 semaines ». Sauf qu'on sait bien que lire simplement un manuel de survie et ensuite aller dans la jungle, ça risque de pas suffire. Qu'est-ce qu'il faut ? Lire le manuel, aller un peu dans la jungle avec le manuel, revenir au manuel. Enfin, il faut mélanger la théorie et la pratique. Et quelque part, bien être actif pour le Seigneur, c'est aussi mettre en pratique. Voilà les conseils que Jésus nous donne. Deuxième passage. Le deuxième passage, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Je prends des pincettes. Trois remarques. La première, c'est que le divorce, tel qu'il est évoqué dans ce texte, montre que c'était déjà un sujet d'actualité dans l'Antiquité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Même dans la loi de Moïse, 1000 ans avant Jésus-Christ, on voit déjà que le divorce existe. Jésus en parle à plusieurs reprises. Paul en parle aussi. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et d'ailleurs, deuxième remarque, c'est que Jésus envisage le divorce, mais de manière encore plus restrictive que la loi. Puisque quand on regarde le texte que Jésus cite dans Deutéronome 24, il est question de pouvoir divorcer si la femme a fait quelque chose de honteux. Quelque chose de honteux. Débat entre les chefs religieux, qu'est-ce que c'est que quelque chose de honteux? Alors certains disent bien sûr c'est l'adultère, puis d'autres disent non, bah, c'est la vie quotidienne fait à brûler le plat pour... Alors évidemment, vous savez quelle était la position la plus populaire dans les milieux, dans ces milieux où, évidemment, ça fait sourire, mais dans le passage que nous lisons, lorsque Jésus parle de l'infidélité, il fait référence, il utilise le mot grec porneia. Porneia, pornographie, tout ce qui se rapporte à l'immoralité sexuelle de manière générale. Or, autrement dit, ce que Jésus explique, c'est que le divorce n'est pas une option, et s'il faut venir vers là, c'est vraiment un cas extrême pour cause d'infidélité. En même temps, si on continue la lecture de Matthieu, on arrive au chapitre 19, et là, on lit que Jésus est très clair. Les chefs religieux reviennent vers lui pour aborder cette question et il explique que ce n'est pas le plan de Dieu. Pourquoi vouloir séparer ce que Dieu a uni? C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Rompre l'engagement du mariage, explique Jésus, c'est tout simplement un péché. Et pourquoi? Pourquoi Jésus est aussi carré par rapport au mariage et par rapport au divorce? Et ce n'est pas pour taper sur le divorce et sur les divorcés, c'est pour renforcer le cadre du mariage et l'engagement dans le mariage comme quelque chose d'important et de solennel. Mais c'est aussi pour encourager, avant d'arriver au divorce, à explorer tous les moyens possibles pour faire durer un mariage. Et reconnaissance, notamment du travail que font Laurence et Nasser, avec David et Brigitte, Un jardin pour deux, c'est aussi un objectif, c'est de pouvoir se retrouver pour des couples et pouvoir entretenir justement son mariage et repartir sur de bonnes bases. Alors, je termine juste sur ce passage par quelques remarques. Si on part de l'idée que Jésus explique que le divorce n'est pas le plan de Dieu, que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, on peut, de manière très facile, dire vous envisagez le divorce, eh bien, venez pas vers les responsables de l'Église parce qu'on n'en parlera pas. Il y a un film qui s'appelle Argo, avec Ben Affleck, qui est 2012 aussi, qui est en lien avec l'exfiltration d'otages américains de Téhéran pour les ramener aux États-Unis. Ça se passe en 1979. Et Ben Affleck, qui joue le rôle de l'agent qui va exfiltrer les otages, explique à ses supérieurs qu'une exfiltration, c'est quelque chose dont on ne veut pas avoir besoin, mais lorsqu'on en a besoin, Il faut toujours le faire par quelqu'un d'autre, pour garder les mains propres. Et il dit, et quelque part, on pourrait se dire, le divorce, c'est la même chose. Des chrétiens souhaitent divorcer, on peut se dire, on va se laver les mains parce que nous, on veut garder. Le fait est que, bien souvent, lorsque des personnes viennent voir les responsables d'une église pour parler du divorce, c'est que c'est souvent trop tard. C'est que souvent, les moyens envisagés ont été épuisés. Alors, qu'est-ce que je peux dire qui soit encourageant par rapport à ça? Eh bien, bien sûr, pour un couple, c'est d'être vigilant par rapport aux ennemis qui ont eu raison, qui peuvent avoir raison d'une relation. Quels sont les ennemis du couple? Dans le passage, ici, on voit que ça peut être la colère, ça peut être la convoitise, ça peut être l'immoralité sexuelle et ce qui se passe dans la tête. Il faut absolument faire attention à son cœur. Notre cœur est au cœur du mariage. La repentance et la reconstruction du couple, c'est toujours ce que Dieu préfère. Et bien sûr, en tant que responsable, on va se poser la question si tous les moyens ont été épuisés pour pouvoir reconstruire le couple. Parce que nous savons bien qu'un divorce est quelque chose de douloureux. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis qui viennent vers vous en disant « Ah, c'était formidable, qu'est-ce que j'ai aimé divorcer, c'était vraiment... » Alors parfois, certains disent « Oui, c'était le plus beau jour de ma vie après le mariage parce qu'ils ont tellement souffert. » Mais ça laisse des traces, c'est quelque chose de douloureux. Ce n'est pas un acte anodin. Jésus, cependant, et c'est là où il y a de l'espoir, n'est pas venu pour ceux qui vont bien, mais Jésus nous dit quoi dans l'Évangile? Bien, il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie le désir, la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Et passer par un divorce, c'est quelque chose de terrible, mais Jésus nous dit aussi qu'il est là aussi pour aider une personne à se reconstruire si vraiment c'est par là qu'elle doit passer. Troisième passage, et je termine avec ça. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Quel est le problème exposé par Jésus ici? C'est qu'une relation entre deux personnes peut être brisée par le mensonge. Le mensonge peut susciter une telle déception qu'il peut briser une relation. Et il se trouve qu'il y a quatre manières d'éroder la confiance que l'on peut avoir entre deux personnes. Ça peut être à travers le silence, le fait de ne pas communiquer. Comment ça, tu comprends pas ce que j'ai voulu faire et en fait, non, j'ai pas compris parce que tu m'as pas dit ce que tu voulais faire. Le mensonge, tout simplement. Qu'on peut opposer à la flatterie. La flatterie, c'est un mensonge positif. C'est dire que des choses gentilles, même si on pense le contraire. Et ça peut, bien sûr, nuire à une relation. Et puis, les promesses non tenues. Les promesses non tenues, comme cette anecdote d'un homme d'affaires qui se convertit et qui explique que le plus grand changement dans sa vie depuis qu'il est converti, c'est que quand il répond au téléphone, désormais, et qu'il voit le nom de la personne qui l'appelle, eh bien, il dit la vérité. Il dit, c'est pas ça qui est vraiment le changement. Le changement, c'est que, avant, quand je décrochais le téléphone, je devais me souvenir de tous les mensonges que je disais à la personne à l'autre bout du fil, et je devais faire en sorte que mon histoire soit cohérente avec tout ce que j'avais dit avant. Et il dit, aujourd'hui, c'est formidable, j'ai beaucoup moins de travail, puisque je dis la vérité, eh bien, je vis beaucoup mieux mon travail. Les promesses non tenues, c'est aussi vis-à-vis des enfants, qui sont, comme vous le savez, très sensibles à la justice. Et nos enfants sont très attentifs à la parole donnée. Et en même temps, c'est toute une éducation qu'on leur apporte lorsque on fait ce que l'on dit, et que lorsqu'on n'arrive pas à tenir la promesse à un enfant, bah, qu'on lui dise la vérité pour laquelle on ne veut pas tenir la promesse. Comment encourager nos enfants à construire des relations stables? Eh bien, c'est nous-mêmes en ayant une relation claire et nette avec eux. Conclusion. Ce passage de l'évangile de Matthieu nous montre que nous donne le défi de conserver des relations les meilleures possibles les uns avec les autres. Les obstacles à cette relation, c'est la convoitise, c'est aussi le mensonge et la colère, comme on l'a vu la dernière fois. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que Jésus place la barre tellement haute que qui ici peut attester qu'il ne se met jamais en colère, qui ici peut attester qu'il ne convoite jamais, qui ici peut attester qu'il tient toujours sa parole et ses engagements. Alors qui peut être sauvé? Eh bien, Jésus-Christ nous dit, mais personne, personne, vous ne pouvez pas vous sauver par vos propres efforts. Vous avez besoin de quelqu'un qui a toujours tenu ses paroles, qui a toujours résisté à la tentation et qui a refusé la colère. Jésus-Christ est celui qui nous dit « Entrez libre, je suis passé devant vous, j'ai traversé le voile pour que vous puissiez à ma suite voir vos vies transformées et commencer une relation avec Dieu. » Et ça, c'est encourageant.